Dutrisac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
Dutrisac.
Loïc Tassé est avec nous pour parler de politique étrangère. Monsieur Tassé, bonjour.
Oui, bonjour Benoît. Puis j'ai une nouvelle qui vient de tomber sur CNN.
Vas-y.
Il y a donc le président Biden qui vient de dire que les troupes américaines allaient se retirer d'Afghanistan. Tu sais qu'il avait prolongé le délai, contrairement à Trump qui voulait les retirer immédiatement. Alors, ce sera le 11 septembre. Donc, 20 ans exactement après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis disent qu'ils vont retirer toutes leurs troupes d'Afghanistan. On ne sait pas exactement ce qui va arriver avec les conseillers spéciaux qui sont là, mais ça laisse entendre donc que les Américains et les talibans et d'autres sont parvenus à un accord pour ce qui va arriver après.
Drôle de message, hein?
C'est assez particulier comme symboliquement parlant. Puis c'est pour ça que je te dis, ça vient de sortir. Okay. Moi, j'ai absolument pas confiance en ça. Je pense que la guerre va reprendre en Afghanistan. Ça va être une question de mois, malheureusement. Puis je pense que les dirigeants actuels vont fuir à l'extérieur du pays parce que c'est des gens très corrompus qui ont planqué de l'argent à l'extérieur, tout simplement. Excuse-moi d'être cynique comme ça, mais je pense que faut pas s'attendre à autre chose de la part de ce
Il y a raison d'être cynique ces temps-ci, Loïc, surtout quand on apprend ce que le gouvernement japonais s'apprête à faire.
Oui, il va rejeter les eaux radioactives de Fukushima dans l'océan. On se souviendra qu'il y a eu un grand accident à Fukushima il y a 10 ans et c'était tellement grave qu'on avait... D'abord, on a évacué de la ville de Fukushima. C'est plus habitable maintenant parce qu'il y a des retombées radioactives extrêmement graves. Mais c'était tellement grave à l'époque qu'imagine, on songeait à évacuer la ville de Tokyo. Ça aurait pu rendre la ville de Tokyo, qui est pourtant à plus d'une centaine de kilomètres de là, au sud, complètement inhabitable. Heureusement, c'est pas arrivé. Mais donc, ça a secoué le monde entier. On s'est rendu compte qu'on avait frôlé. Enfin, c'est une catastrophe, mais que ça aurait pu être encore plus grave. Mais le problème, c'est que ces réacteurs ont des eaux qui sont très contaminées. Il faut les refroidir. Et on les refroidit avec de l'eau qui se contamine, mais il n'y a pas question de rejeter cette eau-là dans la nature. Donc, on l'entrepose dans d'immenses citernes, un peu semblables à celles qu'on utilise pour entreposer le pétrole, par exemple, près des raffineries. Il y en a pour 1 million de tonnes d'eau là-dedans. Et en plus qu'un million, il y en a des millions de tonnes. Ils viennent de dire, les autorités, ils viennent de dire, écoutez, on n'a plus de place. Ça nous coûte trop cher, ça nous coûte 900 millions par année. Donc, on va relâcher ça dans l'océan.
C'est clair.
Les gens sont pas contents. Oui, mais ils disent, on va les filtrer un peu, vous allez voir. on va retenir, oui, c'est ça. J'ai eu la même réaction que toi. C'est, on va retenir les matières radioactives.
Ben oui.
Mon œil, hein. C'est l'équivalent, ça, de 1000 piscines olympiques qu'on va relâcher dans l'océan. Alors, évidemment, tu peux me dire, oui, mais par rapport à l'océan, c'est pas grand chose, 1000 piscines olympiques. Et il y a un facteur de dilution. Oui. Mais où vont aller ces eaux exactement? Est-ce qu'elles vont circuler partout dans le monde? Est-ce qu'elles vont rester dans la région? Puis les pêcheurs de la région sont furieux parce qu'évidemment, qui est-ce qui va vouloir acheter du poisson qui a baigné dans des eaux radioactives? Personne.
Ça ressemble à un épisode des Simpsons. Tu sais, quand il sort du réacteur nucléaire, puis il y a une tige nucléaire, tu sais, l'uranium enrichi, je sais pas trop, dans son chandail, puis il lance ça dans la rue, le gouvernement japonais fait exactement comme Homer Simpson.
Écoute, il est absolument... Oui, le gouvernement japonais, en ce moment, n'arrive pas du tout à rassurer le monde entier, loin de là. Ça fait peur, ce qui se passe là. Et je suis pas sûr, moi, qu'ils arrivent à retirer, en effet, les matières radioactives de l'eau. J'aimerais bien voir.
Ben, voyons donc.
Je pense pas.
Prennent des filtres à café, tu sais. Hey, le sushi va être bon, hein? Oh, le sushi fluorescent la nuit.
Ben, écoute, c'est romantique. Le soir, à la chandelle, c'est... Et des sushis. Mesdames et messieurs, si votre sushi est fluorescent dans les prochains mois, vérifiez la provenance du poisson.
Il vient de Fukushima en direct.
Bon. Mais tu sais, ceux qui se moquent de ça aussi, ceux qui sont très choqués, ce sont les Chinois. Et les Chinois disent, c'est pas la faute des Japonais, c'est la faute des Américains.
Bon.
Pardon? Oui, c'est parce que les Américains, n'est-ce pas, ont à leurs ordres le Japon, disent-ils. C'est complètement ridicule. On n'est plus en 1945. Là. Les troupes américaines viennent pas de débarquer au Japon. C'est fini ce temps-là. C'est vraiment le gouvernement japonais qui a pris cette décision-là. Mais ça te montre simplement la montée aussi de la guerre froide entre les États-Unis et les Chinois, parce que c'est un bon coup pour la propagande chinoise. Ça va enrager quelques personnes au Japon qui vont s'imaginer que c'est la faute des Américains, et ça discrédite aussi les Américains dans le reste du monde, bien entendu.
Pendant ce temps, montée de la tension entre l'Ukraine et la Russie.
Ouais, est-ce qu'on s'amuse dans le monde en ce moment le militaire? C'est que l'armée russe dit procéder à des exercices militaires habituels dans les régions qui sont à l'est. En Ukraine, on appelle ça le Donbass. C'est la région la plus industrialisée de l'Ukraine. Il y a en ce moment une guerre de sécession à l'intérieur même de ces territoires, parce que la Russie aide les Ukrainiens d'origine russe, enfin qui parlent russe, à fomenter une séparation de cette région du Donbass. Bref, c'est la guerre depuis des années dans cette région. Et les Russes, donc, font d'immenses mouvements de troupes en ce moment près de l'Ukraine. Ils en font aussi en Crimée. Et donc, le gouvernement ukrainien a très peur. Il s'imagine que peut-être les Russes vont essayer d'attaquer l'Ukraine. Le président de l'Ukraine s'est rendu sur le front, et puis on l'a vu courir avec les soldats comme s'il allait être attaqué. Vraiment, il y a une tension marquée qui augmente dans la région. Et le chef de l'OTAN a appelé la Russie à cesser immédiatement son renforcement militaire aux frontières et à cesser, dit-il, de soutenir les séparatistes du Donbass. Sauf que l'armée russe dit non, on fait pas ça pour cette raison-là. On fait ça parce que, en fait, c'est l'OTAN qui prend des dispositions menaçantes, et donc nous répondons à vos dispositions menaçantes. Bref, la situation est en train de s'envenimer. Je ne crois pas que ça dégénère, par exemple, mais disons que ça ne va pas aider les relations entre la Russie et les États-Unis.
Bon, il y a M. Navalny aussi là, qui fait une grève de la faim.
Oui, on a eu de ces nouvelles. On sait qu'il fait une grève de la faim depuis le 31 mars dernier. Il aurait perdu 8 kilos. Déjà qu'il n'était pas gros, et en fait, ce qui se produit, c'est qu'on se souvient, M. Navalny a été victime d'un empoisonnement à une substance neurotoxique, il avait été soigné en Allemagne, il est revenu en Russie, n'est-ce pas, et il a été arrêté en Russie, il est donc maintenant en prison, mais il se plaint de ne pas recevoir les médicaments dont il aurait besoin. Entre autres, il aurait une double hernie discale, et donc ça lui ferait très mal au dos, on lui donne rien, il n'y a pas d'accès à un médecin, et il serait aussi torturé par des privations de sommeil. Alors, ce qui se produirait, c'est que il serait menacé de gavage, et ce gavage peut se faire soit par intraveineuse, soit par la bouche, soit par l'autre côté. Sans
doute. Oh, ça c'est pas agréable comme pensée, hein?
Non, c'est pas agréable.
Bon, allez.
Mais bon, pendant ce temps-là, ces partisans disent qu'ils vont reprendre leurs actions et leurs manifestations. Ils auraient déjà 420 000 adhérents sur leur site, et ils attendent, disent-ils, d'avoir atteint le chiffre symbolique de 500 000, donc un demi-million. Et à ce moment-là, ils vont recommencer leurs actions. C'est dur d'être un adhérent à ce mouvement-là en Russie, parce que quand tu es adhérent, tu faut attendre à ce que la police vienne frapper à ta porte, tu peux être arrêté, tu peux recevoir des amendes, etc. Donc ça prend beaucoup de courage pour être un opposant à Poutine en Russie.
Tu peux faire encore mieux les sushis de Fukushima radioactifs et fluorescents. Facebook, qui fait une gaffe niaiseuse.
Oui, il y a une très belle ville en France qui s'appelle la ville de Bitcheux, je crois, si on prononce en français.
Bitcheux.
Mais en anglais, ça ressemble à un autre mot qui prend un Y à la fin, qui s'appelle Bitchy. Et ça, évidemment, c'est un terme insultant en anglais. Donc, les censeurs sur Facebook ont vu ça. Et figure-toi qu'on a fait fermer le site de la ville de Bitcheux pendant des jours, parce que on s'est dit, oh non, on peut pas employer ces termes-là, etc. Évidemment, le site web de la ville a été rétabli par la suite. Je pense qu'il a été rétabli hier, quelque chose comme ça. Mais ça te montre la pudibonderie sur Facebook et les dangers que ça provoque pour la liberté d'expression. Tu sais, Facebook est en train vraiment de faire de la censure. C'est le même exemple. Imagine, tu parles au téléphone, puis là, ta compagnie de téléphone te coupe parce que tu emploies des termes qui sont inadéquats selon elle, ou tu es en conférence sur Zoom, puis Zoom te coupe parce que tu emploies des termes inadéquats. Voyons donc, ça n'a aucun sens. Et tu as des abus qui débordent ici. J'ai vu ça récemment dans le métro. Tu as des affichettes qui indiquent maintenant qu'il est interdit d'insulter les employés du métro. Excuse-moi, là, mais si, même si, en général, c'est peu recommandable d'insulter, parfois c'est nécessaire. Oui, non, mais c'est, ça arrive. Puis je suis prêt à parier que ce règlement-là est complètement inconstitutionnel parce que tu violes la liberté d'expression des gens. Si tu as envie d'insulter quelqu'un, tu vas l'insulter parce que des fois, il y en a besoin d'être insulté.
Mais c'est de la violence verbale, Loïc, c'est pas correct.
Arrête-moi ça. Ah oui, oui, c'est ça, la violence verbale. Il y a des épais, puis des fois, ça vaut la peine de leur dire qu'ils sont épais ou que leur décision est épaisse. Je suis encore persuadé, je suis pas juriste, ouais. Je suis persuadé que ça se plaide en cours puis que ça c'est protégé par la Constitution, le droit d'insulter. Je le recommande
pas. Monsieur le juge, regardez-le. Regardez-le.
Et même un juge, tu peux l'insulter.
C'est un épais. Oh, pas longtemps.
Tu peux l'insulter, tu lui dis, vous, monsieur le juge, vous avez erré en droit.
Ouais.
Mais là, là, c'est l'insulte suprême. Outrage. Pour un juge, ça.
Outrage au tribunal, puis...
Non, t'as le droit de le dire au tribunal, vous avez erré en droit. C'est l'équivalent de lui dire, vous êtes un imbécile, vous dites n'importe quoi.
C'est noté.
Exactement la même chose en langage juridique.
Loïc Tassé, merci, à demain.
Salut, à demain.
Ciao.